du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique pour le premier dimanche de Carême. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Il est dans le désert 40 jours, tenté par le Satan. Et il est avec les bêtes sauvages et les anges le servent. Après que Jean ait été livré, Jésus vient dans la Galilée. Il proclame l'Évangile de Dieu. Il dit :
Le moment est arrivé. Le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Eh bien, nous voici au seuil du carême. Les semaines qui nous mènent à Pâques doivent nous faire revivre le mystère de la mort de Jésus. Une mort qui ne mène pas au néant, mais au contraire vers la vie d'éternité. Une mort qui est modèle de la nôtre. Une démarche que Jésus peut vivre avec nous si nous l'accueillons comme notre guide.
Alors regardons où se trouve notre texte. Ces quelques versets d'aujourd'hui sont très riches. Aussitôt après le baptême de Jésus, ils viennent décrire, comme en résumé, ce que sera sa mission. D'abord, lutte contre les forces du mal, proclamation de la proximité du règne de Dieu ensuite. Dès les versets suivants, Jésus appellera des disciples qui seront ses compagnons de mission et les continuateurs de son action.
L'Esprit pousse Jésus au désert.
Alors que représente le désert? Eh bien, empruntons au livre d'Osée ce que pouvait signifier le séjour au désert pour les contemporains de Jésus.
C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte. Il adviendra en ce jour-là, parole du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon Baal. J'écarterai de sa bouche les noms des Baals et ils ne seront plus mentionnés par leur nom. Je conclurai pour eux une alliance en ce jour-là, avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai et les bannirai du pays. Et eux, je les ferai reposer en sécurité.
Alors on voit ici que c'est Dieu qui va conduire son peuple au désert. Il l'envisage comme quelqu'un qui conduit son amante plutôt. Et il y a l'opposition entre le lien entre Dieu et le peuple. Dieu est le mari du peuple. Et puis les Baals, ce sont les idoles. Ces 40 jours au désert de Jésus nous renvoient aux 40 années où les tribus juives deviennent le peuple de Dieu. Les Égyptiens avaient retenu en esclavage les tribus juives qui étaient venues s'installer en Égypte du temps de Joseph, alors qu'à ce moment-là, elles fuyaient une famine qui sévissait en Palestine. Alors, sous la conduite de Moïse, ces tribus vont s'unifier dans une alliance avec le Seigneur Dieu. Ces tribus deviendront un peuple qui aura vocation d'être, dans le monde, le prototype du règne de Dieu. Mais la traversée du désert va être longue et ce temps sera comme une épreuve, faim et soif, insécurité à cause des attaques des peuplades hostiles des régions que l'on traverse. « Si le Seigneur est notre Dieu, se disent les fils d'Israël, demandons-lui de nous épargner ces épreuves, qu'il montre son amour pour nous. » Relisons l'épisode que l'on appelle de Massa et Meriba, que les Hébreux ont vécu dans le désert au chapitre 17 de l'Exode.
Toute la communauté des fils d'Israël campa à Rephidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire. Le peuple querella Moïse. « Donne-nous de l'eau à boire, » dirent-ils. Moïse leur dit, « Pourquoi me querellez-vous? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve? » Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba, épreuve et querelle, à cause de la querelle des fils d'Israël et parce qu'ils avaient mis le Seigneur à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous? » Oui ou non?
Exiger des preuves de l'amour, on le sait, c'est empêcher cet amour d'exister. Et cela est valable entre deux êtres humains, mais aussi entre l'humain et Dieu. On n'exige pas l'amour. L'amour, on ne peut que l'accueillir, car il n'est qu'un don gratuit. L'amour ne peut se vivre que dans la confiance et la gratuité. Exiger quelque chose de celui qu'on aime, c'est tuer cette gratuité et c'est donc tuer l'amour. Et si l'on ne peut exiger de Dieu qu'il nous prouve son amour en nous délivrant du mal, eh bien toute vie humaine se trouve pourtant affrontée à cette question dramatique. Est-ce qu'il est vraiment possible de vivre de l'amour malgré tout le mal qui nous entoure et qui est en nous? Pourquoi y a-t-il tant de mal et de souffrance dans le monde? Si Dieu est la source de l'amour et qu'il nous a créés pour vivre de cet amour, comment cela se fait-il? La mission de Jésus est elle aussi confrontée à cette question cruciale. Le peuple juif, le peuple de Jésus, est colonisé par la puissante Rome et il souffre grandement de cette occupation. Et beaucoup de ses contemporains se révoltent. Pourquoi Dieu permet-il que des païens humilient ainsi son peuple? Alors ne faut-il pas prendre les armes pour sauver l'honneur de Dieu en chassant les Romains? Et ainsi, ce serait faire venir le règne de Dieu sur cette terre d'Israël. Mais quels moyens faut-il prendre pour libérer Israël? Faut-il prendre les armes? Mais tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Et utiliser la violence, n'est-ce pas devenir soi-même violent? Et donc, aggraver le mal sur la terre? Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Matthieu et Luc illustreront par des images et des citations bibliques ces dilemmes devant lesquels Jésus se trouve et auxquels il est affronté. Marc, lui, ne fait qu'évoquer le désert, mais il note avec force que cette épreuve est celle d'un combat entre la vision divine et celle de Satan.
Il est dans le désert 40 jours, tenté par le Satan.
Alors, qui est le Satan? Le mot hébreu signifie l'adversaire. L'image de Satan a d'ailleurs évolué dans la tradition juive. Il a été compris souvent comme quelqu'un qui joue un rôle d'accusateur de l'être humain auprès de Dieu. On trouve cela par exemple dans les livres de Job. Mais il est aussi vu comme le grand tentateur qui pousse l'être humain à faire le mal. Et Satan porte alors le nom de prince des ténèbres ou de prince de ce monde. Les maladies sont considérées comme le résultat des forces du mal et donc de Satan.
Cette fille d'Abraham que Satan liait voici 18 ans, il n'eût pas fallu la délier de ce lien le jour de sabbat.
Pour Jean-Baptiste, comme d'ailleurs pour beaucoup des juifs de son époque, si le peuple de Dieu est colonisé par les Romains, eh bien c'est à cause de son péché. Il s'est laissé conduire par Satan et il s'est détourné de la Torah. Pourtant, si l'être humain est soumis à un combat intérieur contre des forces qui veulent le faire dévier de sa vocation de fils de Dieu, il n'est pourtant pas tragiquement enfermé dans cette condition, car Dieu ne peut se résoudre à cet échec de sa création et donc, la tradition juive connaît cette espérance d'une victoire de Dieu sur Satan. On attend un monde à venir où le mal sera vaincu et où la Torah sera véritablement la règle de vie de tout juif. Le récit du combat de Jésus contre Satan au désert traduit justement la victoire des forces divines. Le monde à venir est donc déjà présent en Jésus. Alors comment cette victoire a-t-elle été possible? Eh bien c'est que dans l'homme Jésus, l'Esprit de Dieu se trouve pleinement accueilli. Il y a une communion parfaite entre le Père et Jésus qui est son Fils bien-aimé. Le récit du baptême en a fait la révélation.
Jésus est baptisé dans le Jourdain. Aussitôt, lorsqu'il remonte hors de l'eau, il voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui. Alors qu'une voix vient des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi mon amour est accompli. »
En toi mon amour est accompli, oui. En Jésus, c'est la promesse de Dieu qui se réalise telle qu'Ézéchiel l'annonçait.
Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes préceptes, et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes.
Oui, en effet, la seule connaissance de la Torah, de la parole divine, ne peut pas suffire pour que nous soyons capables de vivre selon la pensée de Dieu. Il faut que la force spirituelle de Dieu vienne envahir notre cœur. Et cela ne peut se faire que par notre pure liberté totalement ouverte à la communion avec Dieu. Cette totale et pleine ouverture à Dieu s'est réalisée en l'homme Jésus. Il est ainsi devenu le nouveau Moïse, capable de réunir en lui des frères et des sœurs qui seront le nouveau prototype du peuple sur lequel Dieu qui est l'amour peut régner. Ainsi se trouve exaucée la belle prière d'Isaïe au chapitre 63.
Pourtant, Seigneur Dieu, tu es notre Père. Si Abraham ne nous a pas reconnus, si Israël ne se souvient plus de nous, toi, Seigneur, tu es notre Père, notre libérateur, tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisser errer loin de tes voies et endurcir nos cœurs en refusant ta crainte? Nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais!
Eh bien, lors du baptême, les cieux ont été déchirés et le cœur humain de Jésus a été inondé de la force spirituelle de l'amour du Père. Et Jésus peut donc ainsi devenir le réalisateur d'une alliance entre Dieu et l'être humain, une alliance qui sera nouvelle et éternelle.
Il est avec les bêtes sauvages et les anges le servent.
Mais que signifient ces images? Dans le prophète Isaïe, nous avons au chapitre 11 un tableau de la victoire de Dieu, une victoire qui sera réalisée par son Messie.
Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Il ne se fera aucun mal sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur Dieu.
On voit donc que l'image des bêtes sauvages vivant en harmonie avec l'être humain est le symbole d'un règne de Dieu sur le monde et de la paix que ce règne instaure. Cette image puise en de nombreux textes de la tradition juive. L'agressivité des bêtes sauvages envers Adam, en effet, avait été comprise comme la conséquence de la faute d'Adam, car Adam avait détruit en lui l'image de Dieu, et les bêtes sauvages étaient alors considérées comme les suppôts des démons. Lisons ce que dit le document juif que l'on appelle le Testament des 12 patriarches.
« Si donc vous faites le bien, les hommes et les anges vous béniront, et Dieu sera glorifié par vous parmi les nations, et le diable fuira loin de vous. » Et les bêtes sauvages vous craindront, car le Seigneur Dieu vous aimera et les anges s'attacheront à vous.
On peut voir ici comme une sorte de retour aux conditions de vie du paradis terrestre. Plus tard d'ailleurs, Jésus, en communiquant à ses apôtres son pouvoir spirituel d'amour pour combattre le mal, va l'illustrer par l'image du combat contre les bêtes sauvages.
Les 72 revinrent tout joyeux, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »
Évoquons encore un texte rabbinique, la vie d'Adam et Ève, où nous trouvons l'écho d'une tradition juive qui parle des anges. Alors qu'avant le péché, les anges servaient Adam et lui procuraient sa nourriture, eh bien lorsqu'Adam est expulsé du paradis, il passe 40 jours à jeûner. le tentateur, Satan, vient lui expliquer qu'il n'a pas voulu vénérer l'image de Dieu qui est dans l'humain. Alors, Adam demande à Dieu d'éloigner cet adversaire, et Dieu lui envoie 12 anges pour l'assister. Eh bien, cette assistance divine envers le Messie est d'ailleurs aussi illustrée de la même manière dans le psaume 91.
« Il chargea ses anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le tigre et le dragon. »
Et on trouve des images d'ailleurs un peu semblables dans le testament des 12 patriarches.
« Si donc vous faites le bien, les hommes et les anges vous béniront. Et Dieu sera glorifié par vous parmi les nations et le diable fuira loin de vous. Et les bêtes sauvages vous craindront. Et le Seigneur vous aimera et les anges s'attacheront à vous. »
Voilà, la victoire sur les forces du mal ne peut donc se réaliser que par la force de Dieu et c'est cela qui est symbolisé, signifié par la présence des anges qui sont les messagers de Dieu. Ils apportent la nourriture divine, la nourriture spirituelle. Comme cela s'est déjà passé pour les serviteurs de Dieu qui ont été Moïse et Élie. Rappelons-nous, Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne de Dieu, s'entend dire par le Seigneur.
Inscris ces paroles, car c'est sur la base de ces paroles que je conclus une alliance avec Israël. Il fut donc là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, il ne but pas d'eau. Il écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles.
Et lorsqu'Élie est découragé devant les difficultés de sa mission de prophète, eh bien c'est au désert qu'il se réfugie et un ange lui dit
« Lève-toi et mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. » Élie se leva et mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu.
On retrouve ici le chiffre symbolique de 40 et la nourriture du pain et de l'eau qui sont les symboles de la parole de Dieu. On voit donc que Marc se sert d'images bibliques traditionnelles pour décrire le combat de Jésus. Et ce combat ne sera pas limité à ce temps de désert, il va être au contraire la trame de toute la mission de Jésus. On pourra en donner un exemple dans la violente altercation entre Jésus et Pierre. Devant le choix de Jésus d'accepter la mort plutôt que de répondre par la violence à ses adversaires, Pierre, lui, veut détourner son maître de ce destin et Jésus va lui répondre avec force.
« Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Eh bien, notons ici que Pierre est traité de Satan précisément parce qu'il se laisse guider par les puissances mauvaises, il se laisse guider par ce qui est en nous l'esprit du monde.
Jésus vient dans la Galilée proclamer l'évangile de Dieu.
Alors pourquoi Jésus a-t-il choisi la Galilée de préférence à Jérusalem? Jérusalem était pourtant le haut lieu de la religion de son peuple, le lieu où se dresse le temple qui est la demeure de Dieu. Alors on peut dire bien sûr que la Galilée est familière à Jésus puisqu'il y a vécu depuis son enfance. Mais son choix est dû surtout au fait que la Galilée est ce qu'on appelle la terre des nations, c'est-à-dire que c'est l'endroit de ce pays de Palestine où se mêlent juifs et païens, un peu comme aujourd'hui se mêlent israéliens et palestiniens. Ce choix de la Galilée peut donc signifier que le message de l'Évangile n'est pas réservé au seul peuple d'Israël, mais qu'il concerne tous les peuples, les croyants en Dieu et les autres croyants. La finale de l'écrit de Marc va redire cette dimension universelle de l'annonce de Jésus.
Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile à tous les êtres créés.
Et c'est sans doute pourquoi le ressuscité donnera rendez-vous à ses disciples en Galilée, le lieu symbolique d'où devra partir l'annonce de la victoire sur la mort. C'est ce que dit en effet le messager divin aux femmes qui sont venues au tombeau.
Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit.
C'était en effet la consigne que Jésus avait donnée à ses disciples au soir du jeudi. Après le repas.
Je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
Et le chapitre 21 du récit de Jean rapportera les apparitions de Jésus au bord du lac de Galilée. Enfin, c'est en Galilée que Matthieu va situer la dernière apparition qui sera l'ascension du ressuscité.
« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. Allez de toutes les nations faites des disciples. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. »
Alors, quel est le message de Jésus? Il est résumé par Marc en quelques lignes. « Le moment est arrivé, le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. » Ce moment de l'histoire qui est enfin arrivé, c'est celui de la nouvelle communion entre Dieu et l'être humain. Dans la personne de Jésus, l'Esprit de Dieu agit en plénitude. Sa parole n'est donc pas seulement faite de mots humains qui seraient comme des bons conseils. Sa parole s'accompagne d'un souffle spirituel qui apporte la force de vivre selon l'Esprit de Dieu. Le récit évangélique de Jean traduit bien cette sous-puissance de la parole de Jésus.
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. »
Oui, l'eau est ici le symbole de la parole de Jésus, la parole qui est son évangile et qui donne une vie éternelle.
« C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. »
Croire en l'évangile, ce n'est donc pas d'abord croire à des idées ou accueillir des préceptes de morale, c'est mettre sa confiance en Jésus et ainsi être imprégné de son esprit, être nourri de sa parole. C'est se lier à Jésus pour vivre en lui et avec lui. L'apôtre Paul exprimera magnifiquement ce lien qui unit le disciple à son maître.
« Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. »
Bien, j'emprunte pour terminer un long passage à une réflexion de Xavier Graventirol, un jeune de 24 ans, qui se laisse interroger devant le suicide d'un ami, Minduit.
La vie demeure absurde. Je n'ai pas voulu donner de réponse à mon ami parce que je prétendais ne pas en avoir. Est-ce vrai? Non. J'en ai une, si grosse et si surprenante. Un homme a vécu et nous montre le chemin de la paix, d'un bonheur serein possible. Je marche à sa suite, mais je n'ose pas le dire à mes proches. Je me refusais de dire que la vie est belle, parce que cela me paraissait grossier, insultant même devant tous ces torturés de la vie. Minduit décide de se jeter par-dessus le pont. À lui déjà et surtout, je disais que je vivais cette même angoisse, mais que quelque chose me retenait, osais-je à peine rajouter. Et maintenant, je veux dire du moins le contraire. La vie n'est pas seulement laide, elle n'est pas sans issue. Il y a quelque chose qui transcende tout cela. Maintenant, je me dis que c'est sur ce qui me retient que je dois insister. Je connais l'existence de ce chemin, d'un possible mieux. Derrière, devant, au-dessus, au-dessous, il existe déjà quelque chose qui dépasse le doute, qui nous fait pénétrer dans une nouvelle dimension, celle d'une sérénité possible, transcendant la joie et l'angoisse. Il ne s'agit plus de beau ou de joie, de choses ayant leur contraire, mais d'un fond, d'un esprit, d'une réalité englobant ces éléments opposés. Il ne s'agit donc pas d'une joie stupide, candide, infantile, mais d'une joie tranquille, profonde, que je cherche depuis si longtemps et qui est encore plus grande que je ne pouvais le croire. Oui, elle surpasse la joie et l'angoisse. Elle les englobe, Comme le fond de l'océan protège la mer agitée ou calme. En fait, si je veux aller au bout de ma pensée, il me semble qu'il s'agit d'une confiance. Une confiance qui laisse place au repos, à l'assurance que tout cela n'est que passager. Et voilà, retrouver pour moi le vrai sens fructueux du mot « foi ». Une foi qui engendre la joie par son espérance inaltérable. Maintenant, je me dois de rajouter un mot sur ma confiance et sa source, Yeshua. Il a vécu comme nous, aussi longtemps qu'on le lui a permis, en aimant jusqu'au bout les siens, les nôtres, l'humanité. Il a accepté la mort comme couronnement de son existence donnée à tous ses contemporains. Et par sa résurrection, il montre que cela n'était pas absurde, qu'une confiance peut sourdre, que malgré la mort, ou grâce à la mort, de la graine naît la plante. De la mort, de la fleur, naît le fruit.
Oui, malgré la puissance omniprésente du mal, le disciple de Jésus ne doit pas succomber à l'angoisse. Il doit participer à la victoire de son maître, cette victoire qu'il a conquise au désert et qui préfigure celle de la résurrection. Avec le ressuscité, le disciple de Jésus peut faire l'expérience de la possibilité de l'amour. La foi chrétienne n'est pas d'abord croyance en des idées, mais engagement de tout l'être à la suite de Jésus. Engagement à vivre l'amour, ô certes difficile, mais possible. On en puise la force dans la méditation et la prière, mais aussi dans la vie fraternelle vécue entre disciples de Jésus. C'est là, dans cette communauté, qu'il peut et doit faire l'expérience de la main tendue, de l'oreille attentive, de la tendresse réconfortante et du pardon, et celle de vivre debout, en artisan de justice et de libération. Oh, certes, au prix parfois de sa tranquillité, sinon peut-être de sa vie, car qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de Jésus et de l'Évangile la sauvera. Le disciple de Jésus vivra cela en communion avec tous les artisans de fraternité, de quelque horizon soit-il. C'est ainsi que le règne de Dieu se fait proche sur notre terre.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Téléphonez toujours au numéro 514-254-8750.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.